Damien Régnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Dutch Asset and Wealth Management. On va parler avec vous du marché des obligations convertibles, stratégie dans ce domaine-là, avec peut-être pour commencer ensemble, si vous voulez bien, petit rappel de l'année 2013. Comment ça s'est passé pour ce segment des obligations convertibles?
Ça s'est très bien passé, du fait notamment de la performance sur le marché sous-jacent action qui a bien performé au global. Il y a eu peut-être des petites variations de performance, donc c'est vrai que sur certains indices on était plutôt sur du 8, d'autres 12% en fonction de la qualité de crédit, l'exposition. Le fonds en lui-même de Deutsche a très bien performé puisque net de fees on était plutôt sur du 16,5-17. Performance qui était drivée notamment par le Japon, mais également par, je pense, un bon picking sur le healthcare, sur le secteur de la santé, pardonnez-moi, les techs aux US. Donc, une bonne année, mais surtout la première année, je dirais, où on a eu un changement de ton, un changement de cycle sur les convertibles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'idée qu'on avait un peu une période de marasme entre 2009-2012 où la convertible traitait un peu comme du high yield glorifié, c'est-à-dire pas liquide, vraiment sur une perspective crédito, pas vraiment de sensibilité action. Et là, on est rentré dans un marché vraiment normalisé, agréable, je dirais, à vivre, à traiter, et finalement très proche d'un environnement pré-2008. Où le marché est liquide, où les profils sont convexes, finalement, de la convertible telle qu'on en rêve.
Qu'est-ce qui, à votre avis, explique ce retour-là? Est-ce que c'est lié au flux, à la recherche de rendement aussi, puisqu'on sait qu'on est dans une période où c'est compliqué d'aller trouver du rendement? Qu'est-ce qui a amené
Alors,
peut-être ce changement d'attitude?
il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a le fait naturel que en 2008, bon, le marché a été survendu puisque les arbitragistes, qu'ils soient compte propre ou hedge fund, sont sortis assez bruyamment de la classe d'actifs. Donc, on a eu beaucoup de gens qui sont sortis à travers une porte assez fine finalement, et l'argent ensuite s'est redirigé sur des stratégies long only, telles que la stratégie de chez Deutsche. Et comme le marché était décoté, il y a eu une force de rappel à la valeur de rédemption, qui était la valeur part, qui a opéré. Ça a pris quelques années. Et finalement, petit à petit, à force d'avoir ces émissions qui sont sorties et d'autres émissions qui sont arrivées, le marché s'est rebalancé jusqu'au point où finalement on arrive sur le profit classique, la liquidité revient, et là on a la demande finale, c'est-à-dire la demande principalement institutionnelle qui revient sur le marché. Et ça a été, c'est l'histoire vraiment du passage fin 2012, début 2013, où on voit vraiment des clients tels que des assureurs, des fonds de pension qui reviennent sur la classe d'actifs, qui reviennent sur la classe d'actifs qu'ils aimaient depuis le départ, mais dont ils ne pouvaient pas supporter le risque de liquidité durant cette période 2008-2012.
Voilà, donc ça veut dire amélioration sur ce plan-là. Du côté des émissions elles-mêmes, justement, vous parliez de secteur de la santé. Est-ce qu'il y a eu ou des technologies, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont vraiment distingués, qui ont pris, on va dire, les devants sur ce type de produit?
Alors, je dirais que ça a été plutôt bien réparti. Il y a eu un retour du primaire, c'est vraiment l'une des thématiques, encore une fois, de l'année dernière. Et c'est toujours un petit peu lié à cette histoire de cycle. Finalement, lorsque vous avez un marché convertible qui est très décoté, qui traite en dessous de sa valeur théorique, forcément, d'un point de vue d'un CFO, c'est-à-dire un directeur financier, pour émettre une convertible, il faut qu'il y ait un intérêt par rapport à l'obligation classique. En l'occurrence, si l'obligation convertible sur le marché secondaire est très décoté, ça veut dire qu'il va devoir venir avec des coupons assez élevés. Donc le gain qu'il aurait par rapport à une obligation classique, finalement, est peu intéressant, peu attractif. Et on a dû attendre cette normalisation du marché pour revoir finalement ces acteurs-là revenir sur le marché. Alors on a eu peut-être un retour du coup d'obligations convertibles dites entre guillemets de qualité, même si le terme est peut-être malpropre, c'est-à-dire que avant les boîtes qui avaient émises entre 2008, j'allais dire fin 2008-2012, elles étaient un petit peu contraintes et forcées. C'est-à-dire que c'est des boîtes qui, à part les quelques-unes qui étaient des, j'allais dire des gens, des répétitieurs courants du marché convertible, c'était des nouveaux crédits, souvent non ratés, souvent sous investment grade, pas mal d'émergents. On est quand même loin de ce qu'on a vu la semaine dernière avec Citrix, ou il y a quelques mois avec Yahoo qui reviennent sur le marché, où c'est vraiment j'allais dire des noms qui sont bien connus grand
signature.
public, large cap, encore une fois très liquide, et qui donc justement encore une fois va créer plus de demandes pour la classe d'actifs. On est vraiment dans une dynamique vertueuse.
On parlait des différents marchés, marché européen, marché américain, marché japonais. Est-ce qu'il y a des marchés qui se distinguent plus que d'autres justement en ce moment?
Oui, alors je pense vraiment que c'est d'ailleurs l'intérêt de la gestion convertible au global. À mon sens, c'est vraiment clé lorsque vous appréhendez la classe d'actifs, notamment dans un cadre d'allocation d'actifs. La convertible, il faut bien comprendre que c'est quelque chose que vous allez avoir en plus. Généralement, vous avez déjà des actions, vous avez du fixed income classique, et vous allez sur les convertibles parce que vous vous êtes acheté quelque chose de différent, qui vous donne de la diversification, qui vous donne de la convexité. Vous êtes généralement quelqu'un qui a une bonne connaissance du marché financier, et vous avez tendance sur les convertibles à être un institutionnel. Donc pour eux, le point vraiment central, c'est limiter le risque de liquidité. Donc ça implique vraiment une diversification au global. L'intérêt d'avoir cette diversification globale, c'est que vous pouvez jouer justement sur les différences entre les différents gisements. C'est-à-dire aux États-Unis, typiquement, on a un marché qui est très liquide, assez standardisé, j'allais dire plus mature que le marché européen avec semi-OTC. Vous avez TRACE, par exemple, pour le trading, donc qui favorise la liquidité naturelle du marché. Vous avez des biais assez typiques de l'économie américaine, c'est-à-dire que vous allez avoir plus de choses sur les pharma, plus de choses sur les secteurs tech. À l'inverse, si vous allez à l'Europe, vous allez avoir un marché qui est beaucoup plus technique. Vous allez avoir des clauses dans les prospectus qui sont presque dépendantes de chaque nom. Donc il y a vraiment une recherche presque juridique, j'allais dire, et de modélisation derrière pour avoir un profil qui est intéressant et qui dégage de valeur ajoutée. Mais vous allez avoir une concentration qui va être différente. Sectoriellement, on va être plus sur des financières, pas mal d'immobilier. On va être également sur des noms dans la recherche et exploration pétrolière, je pense non énergie en Europe du Nord. Quand on se déplace un peu sur le côté, on va sur l'Asie, Asie hors Japon, parce que le Japon est vraiment à part. Alors là, tout devient non rété, 80% du gisement est non rété, donc ça demande une recherche sur le crédit qui est assez approfondie. Mais vous allez avoir des secteurs qui peuvent être très dynamiques. Vous pouvez jouer également une connexion entre finalement la tech du côté recherche et développement aux États-Unis et finalement la production qui se termine en Asie. Vous pouvez construire vraiment une belle histoire au sein d'un portefeuille. Et après, vous avez le Japon. Alors le Japon qui, comme d'habitude, est un peu différent du reste. C'était d'ailleurs le marché le plus important des convertibles il y a une quinzaine d'années. Maintenant, il est réduit un petit peu à peau de chagrin, mais il revient à la mode. Alors, il y a un effet abédomique certainement, mais il y a également voilà, des profils qui sont avec des crédits très serrés. Donc, c'est bien pour la recherche de convexité, mais en ce moment, surtout, une forte corrélation avec le Forex. Donc, vous jouez plus finalement un pari sur le yen. Le fonds, d'ailleurs, n'est pas hedgé, mais qu'un canon particulier sur une valeur particulière, j'allais dire une boîte particulière.
Sur le timing, justement, j'ai pu lire récemment, j'en dirais finalement sur les obligations convertibles, c'est un peu tard pour y venir. Qu'est-ce que vous dites sur ce plan-là?
Alors, je dirais, je serais peut-être un peu brut, je pense que c'est un défaut d'analyse. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très rationnel qui fait vos allocations d'actifs, finalement, votre convertible, c'est quoi? À maturité, vous allez avoir le maximum entre une valeur d'action, c'est-à-dire l'équivalent de parité. Votre convertible vous donne droit à échanger en X nombre d'actions. Donc, vous avez ce chiffre-là. Et de l'autre côté, vous avez la valeur de remboursement. Vous avez le maximum des deux. En termes de risque, vous avez le maximum entre un risque action et un risque de crédit. Donc, c'est assez simple. Donc, si vous réfléchissez un petit peu et que vous êtes quelqu'un qui fait une allocation de portefeuille, vous avez déjà des actions, vous avez du fixed income. Si je vous dis demain, je vous donne une classe d'actifs, elle vous donne le maximum entre les deux, vous allez dire je signe. Le problème, c'est vraiment dans ce point qui est encore le plus crucial à la classe d'actifs, c'est une classe d'actifs qui est peu liquide. Donc, ce risque, c'est difficile à quantifier. Donc l'intérêt de la classe d'actifs est vraiment à regarder dans le prisme, finalement, quelle est la liquidité que je souhaite avoir dans mon portefeuille. Donc elle va s'adresser a priori à des gens qui sont plutôt long terme. Moi, typiquement, je conseille à mes clients d'aller sur un ténor de maturité entre 3 et 7 ans, ce qui correspond à peu près à la maturité moyenne d'un portefeuille d'obligations convertibles. Je pense également que la gestion doit être globale pour limiter ce risque de liquidité. Et je conseille évidemment à mes clients d'avoir vraiment une réflexion qui ne se situe pas que sur la classe d'actifs, mais vraiment au global de leur portefeuille. Donc typiquement, si vous avez un client qui est capable de prendre du private equity ou du high yield ou de l'immobilier, clairement les convertibles à côté, c'est en termes de liquidité, c'est pas du tout les mêmes niveaux, c'est beaucoup plus liquide. Par contre, si c'est quelqu'un qui fait que du souverain, et qui a fait que de l'ETF CAC 40, pour prendre un exemple un petit peu caricatural, là il faut qu'il ait conscience qu'il est sur une classe d'actifs qui est un petit peu différente. Mais encore une fois, c'est quand même une classe d'actifs qui est très instable, donc les gens et les investisseurs savent généralement où ils mettent les pieds.
Eh bien, merci d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui sur ces obligations convertibles, Damien Régnier. En fait, vous êtes donc gérant chez Dutch Asset and Wealth Management.
Merci à vous.